Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, on va parler du passeport sanitaire qu'envisagent de mettre en place les pays européens pour permettre le retour des touristes. On s'intéressera aussi à ce qu'on appelle la gig economy et à la précarisation subie par des milliers de personnes qui travaillent sur des plateformes comme Uber ou encore Deliveroo. Et puis, comme tous les mardis, on ira voir ce qui s'est passé ces derniers jours en France avec notamment la fin du championnat de Ligue 1 et le sacre de Lille face à l'ogre PSG. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 25 mai 2021. À Melbourne, le retour des restrictions dès ce soir 18h. Les autorités ont détecté un cinquième cas de transmission locale du Covid à Melbourne ce mardi. En Europe, des sanctions à l'égard de la Biélorussie après qu'un vol Ryanair ait été détourné dimanche pour arrêter un opposant qui se trouvait à bord. Et il y a un an, jour pour jour, George Floyd était tué par un policier dans la ville de Minneapolis. Et donc, le retour du coronavirus à Melbourne se confirme. Un cinquième cas de Covid a été détecté ce mardi et en conséquence, c'est également le retour des restrictions dès ce soir 18h. Les autorités ont ainsi annoncé que le port du masque était de nouveau obligatoire dans les lieux clos et plusieurs restrictions concernant les rassemblements dans les lieux publics mais également à domicile sont à nouveau appliquées. C'est le Premier ministre du Victoria par intérim, James Merlino, qui l'a annoncé ce matin dans une conférence de presse.
From 6 p.m. tonight, private gatherings in the home will be limited to 5 visitors per day. Public gatherings will be limited to 30 people and face masks will need to be worn indoors unless an exemption applies. And this mask requirement is for everyone aged 12 years and older. This is about giving our contact tracers the time that they need to track this matter down and get on top of it.
Et après des semaines et des semaines sans virtuellement aucun nouveau cas dans toute l'Australie, l'apparition de ce nouveau foyer épidémique a fait également réagir à Canberra. Le vice-premier ministre Michael McCormack a ainsi appelé les dirigeants des autres États et territoires australiens à ne pas surréagir et à fermer leurs frontières. Il a également appelé les Australiens à se faire vacciner au plus vite.
I know that state public health authorities down there will be making sure that they act very quickly to nip that in the bud. Look, this is a difficult situation and Australians need to be alert, not alarmed. They need to make sure that they get their vaccine for themselves, for their families, for their communities and for those people they've never met. States will be working with the Commonwealth to make sure that we get the vaccinations out to Australians and to encourage them to get vaccinated.
Alors appeler les Australiens à se faire vacciner, c'est bien gentil, sauf que pour l'instant, encore pour la majorité d'entre eux, ça reste impossible. C'est d'ailleurs sur cette question qu'a réagi le travailliste Bill Shorten. Il a appelé le gouvernement à supprimer les limites d'âge pour être éligible à la vaccination. Actuellement, dans la plupart des États, il faut être âgé de plus de 50 ans pour pouvoir le recevoir. On écoute Bill Shorten.
Well, my thoughts with everyone in Melbourne where I live, I think that if we want to speed up the vaccination, why on earth can't people under the age of 50, if they choose to go to vaccination hubs and get vaccinated? Let's just get this job done. I think the vaccine rollout is too slow. Perhaps people weren't worried when there wasn't the risk of an outbreak, but now there is, you know, a risk of an outbreak and more lockdowns.
Et sur la question de la vaccination, c'est actuellement l'Australie méridionale qui avance le plus vite, puisque depuis aujourd'hui, mardi, toute personne âgée de 16 ans ou plus et vivant en zone rurale peut se faire vacciner contre le coronavirus. L'Australie méridionale qui, par ailleurs, est l'État qui affiche le taux de vaccination le plus élevé du pays à l'heure actuelle. Et on parle encore un petit peu du coronavirus, plus précisément d'une catégorie de population qui va être dans la lumière d'ici quelques semaines. Il s'agit des sportifs pour qui eh bien, les conséquences de l'interruption des compétitions l'année dernière pourraient se faire ressentir pendant encore des mois, voire même des années. C'est ce que nous apprend une étude réalisée par l'Australian Sports Foundation et qui vient d'être publiée. Cette étude, elle a interrogé 521 athlètes et parmi eux, 61% disent avoir subi une perte financière assez importante. La moitié d'entre eux même déclarent gagner moins de 23 000 $ par an, c'est-à-dire très loin du minimum national qui s'établit à 39 000 $ par an. Alors, cette étude, elle sort à quelques semaines seulement du début des Jeux Olympiques de Tokyo. Et elle souligne eh bien, la souffrance partagée par une bonne partie des sportifs professionnels. Alors de l'autre côté de l'océan Pacifique, Neven Illich, le président de la Pan American Sports Association, invite les sportifs, avant de se rendre à Tokyo, à venir à Miami aux États-Unis pour se faire vacciner contre le coronavirus.
We are very worried about what will happen in Tokyo and we are trying to help. Because we understand that will be better for them to go to Tokyo with all the protections in terms of the vaccination or process. We are inviting them to come here. We are paying for the ticket. And we are offering whatever they need.
En Europe, les 27 se sont réunis hier et ils ont décidé d'imposer des sanctions à la Biélorussie après qu'un avion de la compagnie irlandaise Ryanair a été forcé de détourner l'un de ses avions dimanche à bord duquel se trouvait un opposant au régime du président Loukachenko. Ces sanctions, elles incluent la fermeture de l'espace aérien européen à la Biélorussie. Et après ce sommet, le Premier ministre irlandais Michael Martin s'est fait l'écho des inquiétudes partagées par la plupart des autres dirigeants européens. On l'écoute.
The immediate issue before us is the appalling, reckless and unacceptable activity and the arrest of Roman Protasevich. We call for his immediate release. We believe this action is contrary to all principles of democracy, freedom of association, free speech, and also endangered European citizens and the crew on that aeroplane and its behavior that's not acceptable.
Alors, l'arrestation de cet opposant, ça n'est pourtant pas dimanche la raison qu'a mis en avant la Biélorussie pour expliquer le détournement de cet avion commercial. La Biélorussie avait indiqué pour sa part qu'elle avait reçu une alerte à la bombe concernant ce vol. Ces explications, elles n'ont pas convaincu grand monde à Bruxelles et elles n'ont particulièrement pas convaincu la chancelière allemande Angela Merkel.
Wir haben eine Zwangslandung gesehen.
Ce que nous avons vu était un atterrissage forcé qui a conduit à l'arrestation d'un opposant biélorusse, Roman Protasevich. Roman Protasevich doit être libéré immédiatement, cela vaut aussi pour sa compagne Sofia Sapega. Toutes les explications données pour cet atterrissage de l'appareil de Ryanair ne sont absolument pas crédibles.
Landung des Ryanair Flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu aujourd'hui en Israël et en Cisjordanie pour parler du cessez-le-feu actuellement en cours avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi qu'avec le président de l'autorité palestinienne Mohamed Abbas. Pendant ce temps-là, la police israélienne multiplie ces derniers jours les arrestations pour tenter d'apaiser les tensions entre juifs et arabes israéliens. Elle vient notamment d'arrêter 3 juifs accusés de tentative d'assassinat. On fait le point sur cette affaire avec Guilhem Deltey pour Radio France Internationale.
L'agression avait eu lieu devant les caméras de la télévision israélienne dans une ville au sud de Tel Aviv où cohabitent juifs et palestiniens citoyens d'Israël. Le 12 mai dernier, alors que les tensions communautaires étaient devenues émeutes et batailles de rue, un groupe de jeunes juifs israéliens avait roué de coups un motocycliste arabe. On assiste à un lynchage, avait dit à l'antenne le journaliste de la chaîne de télévision présent sur place. La victime avait été hospitalisée dans un état grave. Ce lundi, la justice israélienne a mis en examen 3 personnes arrêtées dans le cadre des investigations menée sur cette agression. Elle a retenu les charges d'assaut aggravé avec préméditation et de tentative d'assassinat pour l'un d'entre eux, mais elle a aussi retenu les accusations d'incitation au terrorisme et au racisme. Pour les procureurs, les trois suspects ont joué un rôle actif dans un groupe WhatsApp appelant à un rassemblement dans cette ville de Batiam avec le but affiché de s'en prendre à des Palestiniens d'Israël. L'un d'entre eux avait déclaré à la chaîne de télévision « Nous allons les battre et si nécessaire, nous allons les tuer et si nécessaire, nous allons les assassiner. » Guilhem Letaï, Tel Aviv, RFI.
Un triste anniversaire aux États-Unis puisqu'il y a un an, jour pour jour, George Floyd mourait asphyxié sous le genou d'un policier dans la ville donc de Minneapolis. Un incident qui, on s'en souvient, a déclenché une vague de protestations mondiales, mais aussi réveillé un mouvement Black Lives Matter qui entend dénoncer les violences policières à l'égard des Afro-Américains. Alors depuis, le policier Derek Chauvin qui a tué George Floyd a été déclaré coupable par la justice. Mais le combat pour l'égalité mené par les membres du mouvement Black Lives Matter est, lui, loin d'être terminé. C'est ce qu'explique Kimberly Wooster. Elle est responsable du centre de secours George Floyd à Minneapolis.
Nous avons eu un bref moment durant lequel nous pensions pouvoir célébrer qu'un policier soit tenu responsable de ses actes. C'était le jour du verdict de Derek Chauvin. Ce jour-là, nous avons respiré pour la première fois depuis 11 mois. Mais notre joie n'a été que de courte durée. Un autre Afro-Américain, Dante Wright, a été tué. La policière qui a tiré sur lui vient d'être mise en examen. Et pendant ce temps, la police de Minneapolis continue de chasser et de cibler la jeunesse noire. C'est comme si ça ne s'était jamais vraiment arrêté. Et maintenant, la ville nous dit, eh bien, vous avez obtenu justice pour George Floyd, alors dégagez des rues. Mais non, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul homme, d'un seul meurtre, il s'agit d'un système.
C'était Kimberly Wooster, interrogée par Stéphanie Schuller pour RFI. Comme toujours, on jette maintenant un œil à la météo de ce mardi en Australie. 19 degrés à Perth où le temps est couvert aujourd'hui, 17 degrés à Adelaide, 20 degrés à Melbourne où il y a beaucoup de vent. On attend aussi des averses dans la journée. 23 degrés à Sydney où le soleil ici joue à cache-cache avec les nuages aujourd'hui. Des nuages aussi dans le ciel de Brisbane. Le thermomètre y affiche 23 degrés, 27 degrés à Cairns et jusqu'à 33 degrés à Darwin où il fait aujourd'hui très beau.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le foot. Lille, sacré champion de France dimanche devant le Paris Saint-Germain par un seul point. Hugo Moissonnier et Martin Guez pour Radio France Internationale.
C'est terminé, les terminés, les Lillois sont champions de France, quatrième titre pour le LOSC. Les Dogs ramènent un nouveau titre à la Maison des Images. Incroyable de joie, évidemment, ça se saute dessus un petit peu partout. Et il y a un groupe de joueurs qui s'est formé dans le centre du terrain. Voilà, c'est le moment de sortir les drapeaux, de sortir les mouchoirs, de lâcher sa petite larme et de fêter le titre des Lillois.
Martin Guez, c'est vous qui avez assisté au triomphe lillois. Un match à Angers, une victoire de 1, à l'image de la saison d'un beau champion de France, on peut le dire comme ça?
Ouais, un match à Angers, un match à enjeu, hein, 3 points c'est tout, il fallait absolument gagner pour être sûr de distancer le PSG. Ils étaient concernés la semaine dernière, ça s'était mal passé face à Saint-Etienne, ils avaient les jambes qui tremblent, ils avaient mal préparé ce match, ils avaient été rattrapés par l'enjeu. Pas du tout la même copie, pas du tout la même soupe, la même limonade ce soir. Au bout de 9 minutes déjà, on avait senti les Lillois très concernés, l'ouverture du score de Jonathan David, le Canadien. 13e but pour lui cette saison, c'est pas mal hein, pour quelqu'un qui avait eu beaucoup de soucis au début de la saison et qui était même qui avait un peu perdu sa place de titulaire. Deuxième but, bon, Akil Maz, le Turc, lui c'est son 16e but à 35 ans. Il se révèle complètement après une carrière surtout en Turquie où il avait remporté 2 titres avec Galatasaray en 2013, en 2015. Un une réduction du score complètement anecdotique, d'Angelo Fulgini, le natif de Côte d'Ivoire en fin de rencontre pour l'OSCO d'Angers. Ça fait 2-1, ça fait surtout un quatrième titre pour les Dogs qui sont restés de très longues minutes sur la pelouse. Burak Yılmaz, on en parlait, prostré, les yeux dans le vide, les larmes et les drapeaux turcs sur le dos. Il y a eu beaucoup de drapeaux, c'était un peu un champion RFI, on avait des drapeaux d'un petit peu partout. Jonathan David qui a grandi les 6 premières années de sa vie à Haïti, qui a pas oublié ses racines, qui a fait le tour du stade plusieurs fois avec ex drapeau haïtien dans lequel il s'est drapé pour pleurer quelques minutes à la fin. Il y en a un qui ne quittait pas lui son drapeau mozambicain, c'est Reynaldo Mandava, c'est peut-être le premier mozambicain, ça m'étonnerait qu'il y en ait eu avant lui à remporter le championnat de France. Voilà, il a fait le tour du stade 3 fois torse nu et ils le doivent beaucoup à Christophe Galtier, l'entraîneur qui a parfaitement mené ses hommes tout au long de la saison. C'est un peu une équipe sans star.
On écoute maintenant la réaction de Christophe Galtier, le sélectionneur lillois.
Il fallait gagner. On se doutait que Paris avait de fortes chances de l'emporter à Brest. Le lendemain du match contre Saint-Etienne, où j'ai vu mon vestiaire très touché, limite affaibli, il a fallu un peu régénérer tout ça et être très positif et leur dire simplement qu'ils avaient déjà gagné 12 ou 13 fois à l'extérieur et qu'ils étaient capables de le faire et qu'on était devant. Et je leur ai sorti une phrase, mais très banale. Je préférais être, dans cette semaine-là, évidemment, l'entraîneur de Lille plutôt que l'entraîneur de Paris, parce que nous avons notre destin entre nos mains, entre nos pieds. Je savais mon groupe capable de réaliser cette performance.
Paris doit travailler plus dur la saison prochaine, selon Maurizio Pochettino, le sélectionneur des Parisiens.
Cosas positivas, muchas cosas.
Je retiens beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de points à améliorer. Cette saison se termine pour moi avec un sentiment inachevé, une certaine insatisfaction après cette deuxième place en Ligue 1. Nous allons devoir travailler dur dans les prochains mois pour répondre aux exigences d'un club comme le PSG.
Et tout de suite après le journal des sports, dans l'actualité, dans le journal de la semaine, présenté par Émile Matasso, nous reviendrons sur cette saison de Ligue 1 en France. Et on passe maintenant en Angleterre, où Liverpool a terminé 3e et se qualifie pour la Ligue des champions. Hugo Moissonnier et Philippe Auclair pour RFI.
C'est dingue ce qu'a réalisé Liverpool en terminant 3e.
Assez, oui. Quand on pense à la période qu'ils ont eue, notamment du côté du mois de février, ou février et mars, en fait, où ça allait très très mal, où c'était défaite après défaite, Brighton, Man City, Leicester, Everton, Chelsea, Fulham. Ils avaient perdu contre Fulham. C'est quand même extraordinaire. Et là, tout d'un coup, ils se réveillent. Ils se sont réveillés au bon moment. Ils ont profité également des petits problèmes d'autres équipes, mais ils sont invaincus depuis le 15 mars. Depuis ce 15 mars, ils ont fait 8 victoires, 2 matchs nuls. Les joueurs qu'il fallait se sont réveillés. Mohamed Salah, bon, il a été formidable tout au long de la saison. Et puis aujourd'hui, Sadio Mané, qui en fait a marqué autant de buts en un match qu'il en avait marqué, je pense, depuis le 28 janvier pour Liverpool. Donc il avait eu quelques petits problèmes. Là, il s'est réveillé. C'est pas des buts fantastiques au niveau de l'esthétique. C'est des buts super importants malgré tout. Des buts de raccro, des buts aussi vengeurs, je dirais. On a retrouvé le Sadio Mané qu'on aime, c'est-à-dire le bagarreur, celui qu'adore Jurgen Klopp et les supporters de Liverpool. Et la récompense, c'est une 3e place dans ce championnat d'Angleterre et une qualification pour la Ligue des Champions. Franchement, c'était inespéré il y a encore un mois et demi.
Et les 4 premières équipes anglaises iront en Ligue des Champions. Marie-Amélie Motte pour RFI.
Manchester City a savouré son 3e titre en 4 ans, succès 5-0 contre Everton. Derrière, Manchester United était assuré de terminer dauphin. Liverpool s'est hissé sur le podium après sa victoire 2-0 face à Crystal Palace, doublé de Sadio Mané. Et c'est Chelsea qui obtient le dernier ticket pour la Ligue des Champions. Défaite 2-1 contre Aston Villa, mais les Blues profitent de la victoire de Tottenham face à Leicester, 4-2. Comme l'année dernière, Leicester perd sa place en C1 à la toute dernière journée. Et à noter le doublé de l'Ivoirien Nicolas Pépé pour Arsenal. Victoire 2-0 contre Brighton, mais les Gunners terminent à la 9e place. Ils ne disputeront pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Une première depuis 25 ans.
On passe au Giro d'Italia avec la 16e étape hier, remportée par Egan Bernal, le Colombien, qui garde aussi le maillot rose de leader. Grand Prix de Formule 1 de Monaco dimanche, remporté par Max Verstappen devant Carlos Sainz et Lando Norris. L'Australien Daniel Ricciardo est arrivé à la 12e place. Charles Leclerc, le Monégasque, était en pole position mais n'a pas pu démarrer à cause de sa boîte de vitesse défaillante. Deux des skaters qui pratiquent le skateboard pour les JO de Tokyo ont testé positive au Covid-19. Ce sont deux Australiennes. Elles s'entraînaient aux États-Unis. Poppy Olsen a déclaré sur l'ABC que la plupart d'entre elles avaient fait une première dose du vaccin anti-Covid en Australie avant de se rendre aux États-Unis.
I think we all knew what it was going to be like and we'd have to be safe. This was their last shot to really get in. And so it's pretty devastating for those girls.
La ministre française déléguée au sport a réitéré sur la présence de la délégation française et du président français Emmanuel Macron à la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo. On écoute Roxana Maracineanu sur EBU, European Broadcasting Union.
On y sera avec Jean-Michel Blanquer, on va se relayer sur les deux semaines. C'est vrai que même pour les délégations nationales, il y a des restrictions. Le président de la République sera là à l'ouverture. Et bien sûr, nous y serons parce qu'il faut prendre le flambeau pour Paris 2024 à la fin des Jeux.
Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Alors, quel temps fait-il à Paris? Nous, cette question à SBS French, on se la pose tous les mardis. C'est justement le moment où on s'interroge et pour cela, on va retrouver Émile Matasso et Jean-Noël Ducasse pour faire le point sur les actualités de la semaine en France.
Eh bien, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
À la une, aujourd'hui, le championnat de France de foot de Ligue 1 qui vient de se terminer. On va tirer les enseignements sportifs et économiques. Tout d'abord, félicitations à Lille qui a donné le pion au Paris Saint-Germain.
Oui, bravo à Lille. Le foot n'est pas qu'une affaire de gros sous, mais quand même un peu beaucoup. Et ce que les Lillois, ce que le LOSC, c'est le nom du club, à réaliser est assez exceptionnel. Les Lillois décrochent le titre de champion de France de foot au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain. Il a fallu attendre la 38e et dernière journée du championnat, dimanche soir, pour que Lille soit sacrée. Les joueurs de Christophe Galtier avaient les cartes en main, hein, puisqu'ils comptaient 80 points contre 79 points pour le PSG avant la dernière journée. Lille, qui s'était fait peur il y a une semaine en concédant un match nul face à Saint-Étienne, Lille est allé gagner à Angers 2-1. Et donc la victoire des Parisiens, dans le même temps à Brest 2-0, n'a pas été suffisante pour que Paris repasse devant. Lille finit premier du classement avec 83 points, un point de plus que Paris. Lille, qui fait quand même partie des gros budgets hein, du championnat, avec 147 millions d'euros sur la ligne de départ. C'est le quatrième budget de la Ligue 1 cette saison. Mais en août dernier, dans ce championnat pas comme les autres, hein, qui s'est joué sans public en raison de la pandémie Covid-19, mais qui a pu aller sans encombre finalement à son terme. Eh bien, les Lillois ne faisaient pas figure de favori au départ face à l'ogre PSG et son budget de 640 millions d'euros. Et derrière, les grosses cylindrées également que sont l'Olympique Lyonnais, 285 millions de budget, l'AS Monaco, 215 millions, voire même l'Olympique de Marseille, qui a un budget semblable aux Lillois. Mais Lille s'est montré le plus constant avec 3 défaites seulement en 38 matchs, contre 8 défaites, on y reviendra, pour le Paris Saint-Germain, deuxième du classement, et Monaco, 8 défaites également, troisième. Lille a su gagner les matchs clés contre ses concurrents directs avec une équipe très homogène, alors pas de véritable star dans cette équipe, comme à Paris, à Monaco, à Lyon, mais un collectif parfaitement huilé. Un entraîneur, Christophe Galtier, qui décroche son premier titre de champion. Un Mac Maignan dans les buts, impeccable, que beaucoup verraient bien succéder bientôt à Hugo Lloris en équipe de France dans les buts. José Fonte, le capitaine portugais de cette équipe lilloise. Et puis, en attaque, on peut citer les trois Jonathan, Bamba et Ikoné, mais aussi Jonathan David, le Canadien, et puis également Burak Yılmaz, le buteur turc qui a retrouvé une seconde jeunesse à 35 ans. Burak Yılmaz, meilleur buteur du club cette saison, 16 buts en championnat. Il s'agit du quatrième titre de champion de France de foot pour Lille, après 1946, 1954 et il y a 10 ans, le dernier titre, c'était en 2011.
Deuxième, derrière Lille, le Paris Saint-Germain aura alterné tout au long de la saison le chaud et le froid.
Oui, depuis 10 ans, depuis que le Paris Saint-Germain est passé sous pavillon et sous fond qatari, ce n'est que la troisième fois que le club ne finit pas champion de France. En 2012, Montpellier avait été sacré à la surprise générale et en 2017, c'est Monaco qui avait fini champion, mais avec là une équipe assez exceptionnelle. Cette saison, si Paris ne finit pas champion, sans enlever aucun mérite aux Lillois, eh bien, les Parisiens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, avec 8 défaites, dont 5 à domicile au Parc des Princes. Le PSG, malgré ses stars en pagaille, Kylian Mbappé, Neymar, André Di Maria, Marco Verratti, Marquinhos, le capitaine, défenseur, Keylor Navas dans les buts, etc., etc. Le PSG s'est montré beaucoup trop inconstant. Dès le début de la saison, en fait, on a senti que ce serait compliqué. Paris a raté le train au départ, alors que le club venait de disputer fin août 2020, la finale de la Ligue des Champions qui avait été décalée au mois d'août pour cause de pandémie, finale perdue face au Bayern de Munich. Eh bien, le championnat 2020-2021 a démarré dans la foulée, mais les stars parisiennes ont préféré dans un premier temps, après la finale de la Ligue des Champions, aller faire la fête à Ibiza. Nombre de joueurs sont revenus avec le Covid, d'autres se sont blessés. Et donc Paris a perdu ses premiers matchs à Lens, puis face à Marseille. Et finalement, le PSG a passé toute sa saison à courir après la forme et les points perdus. On est loin de la saison 2015-2016, par exemple, où le PSG avait fini champion avec 96 points et 31 points d'avance sur le deuxième. Pas de titre de champion, en tout cas pour le club de la capitale cette année, mais n'oublions pas que le PSG a réussi en parallèle une excellente campagne européenne en éliminant Barcelone, 8e de finale de la Ligue des Champions, puis ensuite le Bayern de Munich en quart de finale et une demi-finale finalement perdue face à Manchester City. Mercredi dernier, le PSG a remporté la Coupe de France, finale gagnée face à Monaco. La question finalement de l'été pour le club, le PSG, va être de savoir si Kylian Mbappé, qui finit meilleur buteur du championnat avec 27 buts, va rester au club comme Neymar, le Brésilien, qui lui vient de prolonger son contrat, ou si Kylian Mbappé va être transféré dès cet été à l'étranger, au Real de Madrid ou ailleurs.
Quels sont les autres enseignements sportifs de ce championnat de foot 2020-2021?
Bien, Monaco, troisième, jouera l'an prochain la Ligue des Champions avec Lille et le Paris Saint-Germain, même si les Monégasques devront passer par les barrages et tours préliminaires. En revanche, Lyon, quatrième, devra se contenter de la petite Coupe d'Europe, entre guillemets, la Ligue Europa. Et c'est une énorme désillusion pour le club de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. On n'est pas loin de la catastrophe industrielle pour Lyon. Le budget a été bâti sur la perspective d'une qualification pour la Ligue des Champions, mais les Lyonnais, battus à domicile par Nice lors de la dernière journée, se sont littéralement liquéfiés. Ils terminent derrière Monaco et pour le club, le manque à gagner va être terrible. Une deuxième année de suite sans la très lucrative Ligue des Champions, c'est un coup d'arrêt. Si vous ne disputez pas la Ligue des Champions, vous êtes obligé de vendre vos meilleurs joueurs. Lyon va se séparer cet été de Memphis Depay, le Néerlandais. Et puis, vous n'avez pas les moyens d'attirer d'autres grands noms. Déception pour Lyon, qui, comme l'Olympique de Marseille, devra se contenter de la Ligue Europa. Pour le reste, Nîmes et Dijon, dernier de la classe, ils descendent les deux clubs, Nîmes et Dijon, en deuxième division. Nantes jouera un barrage pour se maintenir contre un club de Ligue 2. Nantes donc n'a pas encore assuré son maintien en Ligue 1. Et puis l'an prochain, les deux promus, les deux clubs de Ligue 2 qui montent en Ligue 1, il s'agit de Troyes et de Clermont-Ferrand, le Clermont Foot pour qui c'est une grande première.
La saison qui vient de s'achever s'est jouée sans supporters, des matchs à huis clos en raison de la pandémie. Cette absence du public a mis à mal les finances des clubs.
Bien, les finances des clubs de Ligue 1, sans exception, sont dans le rouge. En cumulé, les pertes des clubs de Ligue 1, de première division, les 20 clubs, sur la saison, ces pertes se chiffrent à plus d'1 milliard d'euros, 1 milliard 300 millions. Pas de spectateurs dans les stades, sans parler de l'ambiance morose qui en découle. C'est un manque à gagner de quelques 400 millions d'euros de billetterie sur la saison pour l'ensemble des clubs. Et pour ne rien arranger, il y a eu au début de la saison le fiasco monumental des droits télé. Le diffuseur de la Ligue 1, le groupe sino-espagnol Mediapro, qui avait décroché les droits pour les 3 années à venir et qui promettait plus d'1 milliard d'euros pour le foot français tous les ans, eh bien, Mediapro s'est retrouvé en cessation de paiement. La Ligue a dû jouer les pompiers de service et contracter des prêts, hein, car finalement, le diffuseur Mediapro devait verser cet argent à la Ligue, qui ensuite devait le reverser au club. Mediapro en cessation de paiement, remplacé par Canal+, mais pas sur les mêmes bases. Et là encore, entre l'argent escompté par les clubs et ce qu'ils ont touché au final, la différence, elle s'est chiffrée en plusieurs centaines de millions d'euros pour la Ligue 1. En cette période de pandémie, Covid-19, il vous reste quoi ? La vente des joueurs pour essayer d'équilibrer vos comptes. Jusque-là, on vendait ses meilleurs jeunes en Angleterre, notamment, mais les transferts pour renflouer les caisses, ça ne marche plus en ce moment. Le marché est gelé. Même les clubs anglais les plus riches, eh bien, ils attendent. Ils ne veulent plus, en cette période incertaine, acheter des joueurs des dizaines de millions d'euros. Les clubs de Ligue 1, ils sont donc condamnés à faire le dos rond. Aucune folie possible. Seul le PSG, on l'a dit, semble en mesure de pouvoir s'offrir quelques stars et renouveler son effectif, surtout si Kylian Mbappé venait à partir. On parle, pourquoi pas, de Lionel Messi, l'Argentin de Barcelone, qui pourrait arriver à Paris. Il faut espérer, en tout cas, une chose, que la pandémie recule, que les spectateurs puissent revenir dans les stades. Si la prochaine saison, en août, démarre avec du public, ce sera déjà, à tout point de vue, une énorme victoire. Au-delà de l'argent et des recettes billetterie, retrouver du public, la joie, la vraie joie d'un match de foot sur le terrain, dans les gradins, ce serait déjà fantastique.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode d'Europa Voice, épisode numéro 79. Comme d'habitude, nous retrouvons notre expert, Nathanaël Bloch. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors Nathanaël, aujourd'hui l'un des sujets qu'on va aborder, c'est la question du passeport sanitaire, une option envisagée par l'Union européenne pour permettre le retour des touristes et d'autres personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne.
Alors effectivement, Grégory, on est dans le calendrier du Covid-19 au moment où on parle de ce passeport vaccinal. C'est, si on peut dire, la quatrième étape. Hein. On avait eu le confinement, on avait eu la vaccination, on a maintenant les déconfinements. Et puis là, on va parler finalement des mouvements de personnes dans l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, mais aussi avec des pays hors Union européenne. Et un des gros enjeux, Grégory, de ces mouvements de personnes, c'est la question du passeport, la question de ce Graal qui va permettre aux voyageurs, selon certains critères, selon certaines décisions qui ne sont pas équivalentes et qui ne sont surtout pas similaires entre tous les pays, ben, de rentrer dans un pays ou dans un autre pays. Donc là, on en est à un point où l'Union européenne et les différents États membres se sont mis d'accord cette semaine pour permettre l'entrée dans l'Union européenne aux voyageurs de pays tiers ayant reçu des doses nécessaires de vaccins anti-Covid. Maintenant, la question, c'est d'établir cette liste. On a pour l'instant une liste assez réduite qui comprend 7 membres, dont l'Australie, d'où on enregistre. Mais la question va vite se poser de savoir, au cas par cas, quel pays et dans quelles conditions des ressortissants étrangers pourront rentrer dans l'Union européenne.
Voilà, parce que effectivement, enfin, il semble qu'il y a un accord de principe au sein de l'Union sur la question. En revanche, d'un pays à l'autre, comme vous le disiez à l'instant, les critères d'éligibilité sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. C'est un peu en ordre dispersé.
Ah, c'est en ordre complètement dispersé, mais c'est finalement avec cette crise sanitaire, on est plutôt habitué à voir ça du côté de l'Union européenne. Ce que véritablement les 27 pays membres, hein, faut rappeler, on est à 28 moins 1 depuis le Brexit et la sortie du Royaume-Uni, c'est ce qu'ils espèrent, c'est la mise en place d'un certificat vert commun pour faciliter les passages aux frontières. Il faut se rappeler qu'au moment, au pic de la crise, on avait eu ces débats, ces questions de la légalité de la restriction des mouvements au sein de l'Union européenne entre pays membres de l'Union européenne. On a vu ça entre l'Allemagne et la France, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est finalement peut-être de ne pas reproduire ces mêmes erreurs à la fois d'un point de vue logistique pour que ça se passe bien, pour que le tourisme reprenne, que l'économie reprenne, mais aussi, Grégory, je dirais presque d'un point de vue symbolique, est-ce qu'on arrivera à ne pas fragiliser Schengen avec cette question du passeport vaccinal comme elle a pu être fragilisée au moment des restrictions et des premiers confinements.
Et du coup, est-ce qu'on voit, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une réunion cette semaine pour aborder le sujet, est-ce que les choses ont pu être un peu aplanies ou on est encore dans le flou pour l'instant?
Alors, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que les ambassadeurs des 27 ont approuvé hein, cette recommandation de laisser les voyageurs de pays tiers qui ont reçu les doses nécessaires de vaccins anti-Covid rentrer dans l'Union européenne. C'était une recommandation qui avait été proposée par la Commission européenne, mais rappelons-le, hein, sans rentrer dans les détails, qui n'est pas d'application contraignante. Donc après, ça veut dire que chaque État, finalement, malgré cette proposition faite par la Commission européenne, approuvée par les ambassadeurs, chaque pays, après, sera libre ou pas d'appliquer cela. Alors, il n'y a pas de raison sur le papier, a priori, que des pays soient réticents parce que, encore une fois, ça va permettre de relancer la saison touristique là, à partir du mois de juin et puis l'économie en général. Mais, encore une fois, on n'est pas à l'abri, pas tellement par rapport à ces questions de l'intérêt économique d'avoir du passage, d'avoir des mouvements au sein de l'Union européenne, mais plus par rapport au fait que chaque pays peut avoir des normes qui peuvent être un petit peu différentes. Par exemple, est-ce qu'on parle de personnes, est-ce qu'on doit maintenir ou pas les masques? Est-ce qu'on doit avoir un test PCR valide malgré le fait d'avoir été vacciné? Donc c'est plutôt, maintenant, le diable est dans les détails, et même pour ces mouvements de personnes au sein de l'Union européenne, le diable sera dans les détails de savoir, en fait, quelle sera tout l'ampleur de ce passeport vaccinal et de son application au sein de chaque pays de l'Union européenne. Et puis, il y a un autre enjeu, Grégory, c'est qu'il y a tout un travail aussi à faire pour coordonner au niveau de tous les pays de l'Union européenne ce passeport vaccinal. Mais dans l'intervalle, comme les pays n'ont pas tous été sur le même calendrier de déconfinement, on a déjà des initiatives qui sont sorties au sein de certains pays d'une espèce de passeport interne, de passeport sanitaire interne. Donc maintenant, la question, ça va être aussi comment on va réussir à harmoniser ce qui a déjà été produit, ce qui est déjà sorti en termes de passe sanitaire avec quelque chose de plus global, valide, cohérent, efficace au niveau de l'Union européenne. Pour prendre un exemple un peu et pour que nos auditeurs comprennent de quoi il s'agit, c'est finalement comme ce qui s'est passé en France. On avait le système officiel de réservation de vaccins, les plateformes officielles, avec les canaux officiels qui ont tardé à se mettre en place et qui ont rencontré certaines réticences et certains blocages. Et on avait eu à côté des initiatives plutôt faites par des data scientists individuels, comme la plateforme Vitmados, qui ont permis d'accélérer le processus. Là, ce sera la même chose. C'est comment est-ce qu'on va réussir à concilier des initiatives individuelles d'État avec quelque chose de plus global au risque d'avoir moins d'efficacité parce que ce sera plus compliqué à coordonner au niveau des 27 États membres.
Ouais. Vous disiez tout à l'heure que le diable se cachait dans les détails et qu'il fallait encore affiner beaucoup tout ça. Il me semble que l'une des conditions proposées par l'Union européenne pour ce passeport vaccinal, déjà, c'est que les personnes qui souhaitent entrer dans l'Union européenne soient vaccinées avec des vaccins validés et approuvés par les autorités européennes. Donc, a priori, pour les touristes américains, pas de problème. Mais par contre, les Chinois, on sait que c'est une source de revenus touristiques très importante pour à peu près tous les pays de l'Union qui sont vaccinés avec leur propre vaccin chinois qui n'est pas reconnu en Europe. De fait, les Chinois ne vont pas pouvoir revenir dans l'Union européenne, même s'ils sont vaccinés, parce que leur vaccin ne vaut rien aux yeux de Bruxelles.
Oui, Grégory, c'est un très bon point, mais je vais même le prendre et le développer un peu plus. Une question similaire va se poser aussi avec, par exemple, une deuxième ou une troisième injection de Pfizer. C'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas sûr que, pour le Pfizer, par exemple, on ne doit pas faire comme le vaccin saisonnier pour la grippe et avoir une injection annuelle. Et donc, un certain nombre de la population européenne qui a été vaccinée en ce début d'année 2021 et a reçu les deux doses de Pfizer devra peut-être recevoir une troisième dose un an après, donc début de l'année prochaine. Donc, c'est pas seulement par rapport aux vaccins qui sont homologués ou reconnus par l'Union européenne, mais c'est une question logistique et de processus bien plus importante. C'est comment est-ce que à moyen long terme on va organiser ces mouvements de personnes, sachant qu'on tâtonne encore sur les processus vaccinaux, qu'on a toujours des essais cliniques qui sont en cours sur les troisièmes doses de vaccins. Le Royaume-Uni, par exemple, a lancé une étude sur une troisième dose de vaccin et des essais cliniques sur la réponse immunitaire qui serait engendrée par une troisième dose de vaccin anti-Covid. Donc, vous voyez, on est au-delà du cas, j'allais dire, chinois, qui est très important pour des questions de manne touristique. On ne sait pas encore ce qu'il va se passer en vue d'une troisième dose potentielle de vaccin, donc là qui concernera pas seulement les vaccins non homologués, mais qui pourrait concerner les vaccins homologués par l'Union européenne et dont une grande partie du continent a reçu l'injection ces derniers mois.
Effectivement, c'est toute la difficulté sur ce sujet, c'est que tout est nouveau, y compris ces vaccins, et comme vous le disiez un peu plus tôt, on ne sait pas encore effectivement si les deux doses reçues par certains seront suffisantes ou s'il faudrait effectivement les renouveler, et donc si les règles qui sont en train d'être élaborées devront être ajustées très probablement. Merci Nathanaël, comme toujours, pour vos éclairages sur ce qui se passe en Europe, et puis on se retrouve au prochain épisode, ce sera le 80e, il faudra peut-être qu'on fête ça d'ailleurs.
J'espère qu'on fêtera ça de visu, Grégory.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer?
Et ça, c'était le morceau Chienne de vie, interprété par le groupe Zoufris Maracas. À 13h51, on arrive dans la dernière partie de notre émission et on va maintenant parler d'économie, plus précisément d'un secteur qui a bouleversé plusieurs activités traditionnelles, comme par exemple le transport de personnes ou la livraison de repas. Vous avez deviné, le sujet, c'est ce qu'on appelle la gig economy en anglais, dominée par des géants comme Uber, mais qui, malgré l'immense popularité de ces services auprès du grand public, ces géants sont également accusés de précariser des milliers de personnes, contraintes de travailler pour des salaires de misère et sans véritable protection sociale, un débat qui n'échappe pas à l'Australie. Bertrand Tungandamé s'est penché sur le sujet pour nous. On en parle tout de suite.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les géants australiens de la soi-disant économie des petits boulots sont confrontés à la perspective de réformes radicales visant à améliorer la sûreté et la sécurité financière des conducteurs. Devant une enquête au Sénat, des sociétés de covoiturage telles que Uber et Deliveroo ont défendu leur modèle d'entreprise qui refuse de considérer leurs travailleurs comme des employés ayant droit au salaire minimum et à une indemnisation pour blessures. Au fur et à mesure que les audiences se poursuivent, l'enquête révèle comment les travailleurs prennent eux-mêmes en charge les frais d'assurance contre les accidents alors qu'ils gagnent en dessous du salaire minimum. Assad Mansour était entendu dans l'enquête du Sénat sur la sécurité de l'emploi. Il dit être certain que son employeur Uber sait qu'il ne peut même pas se permettre d'assister à cette enquête. En effet, Assad Mansour est ce que l'entreprise internationale Uber appelle un partenaire de livraison et il n'a jamais pensé qu'il pourrait élever la voix ou protester contre la grosse multinationale.
We considered ourselves invisible before the COVID happened. Then everybody realized what service we were providing. And others as well, the citizens, the immigrants, the workers, the students, they consider that even if we speak out, we raise our voice, we think it's an understanding that no one is going to hear us. Now that you guys are hearing, I'm here to ask you guys to kindly do anything, something about this, put guidelines in place, better working conditions for us.
Esteban Salazar est également chauffeur avec Uber. Il a eu un accident alors qu'il travaillait une nuit pluvieuse au mois de septembre dernier. Et M. Salazar a déclaré que son assurance maladie ne couvrait pas l'intégralité des soins liés à l'accident et il a donc été obligé de payer de sa propre poche. C'est suite à cet incident qu'il a compris qu'il n'était pas couvert comme le sont les autres travailleurs en Australie. En fait, Uber ne l'a pas du tout indemnisé.
Even knowing all those things, they never even asked me how I was feeling, how was the accident, which made me realize that these companies don't really care about their workers. They just care about making workers do what they ask them to do.
Un tiers des chauffeurs de livraison et de covoiturage en Australie ont été victimes d'accidents divers, dont des accidents mortels. Le secrétaire national du syndicat des ouvriers du transport, Michael Caine, s'est également exprimé devant l'enquête sénatoriale et a appelé à l'action.
This is life or death. If five workers in any other industry had been killed in the space of 11 weeks, this nation would have stopped. And this nation should stop today. At the start of this inquiry, pause and take stock. It's time for the federal government to act. The silence has been deafening.
On signale qu'à ce jour, cette année, 95% des Australiens ont utilisé au moins un service d'Uber et le géant du numérique s'est approprié un quart des revenus de ses conducteurs. Dominic Taylor, le directeur général d'Uber Australie et Nouvelle-Zélande, a défendu son entreprise devant les enquêteurs du Sénat.
We've led the industry in instituting an injury income protection insurance policy. Others in the industry don't have it. And so what that means, Senator, is that you can be working on Uber and be covered by this policy, but then in that same hour or 10-minute range, you could have an accident on another and not be covered.
À l'instar des Uber, la société de covoiturage Ola prend 15% des revenus de ses 75 000 chauffeurs. La directrice d'Ola en Australie, Anne Tan, a déclaré que sa société avait cessé de couvrir les frais d'assurance au mois de juin de l'année dernière.
That was a financial decision that we made due to the impacts of COVID, yes. At the very highest peak of COVID, we experienced about 60 to 70% degrowth in our business in Australia.
Le géant de livraison Menulog est quant à lui engagé sur une toute autre direction et envisage même de tester un système où ses chauffeurs seraient convertis en employés. Morten Belling, le directeur général de Menulog en Australie, a déclaré que sa société craint que le changement de régime n'affecte la productivité des chauffeurs.
That's an incentive for couriers to wanting to do as many orders as possible and move as quickly through traffic as possible potentially. And if you move to a different model where you're paid by the hour, I think to a certain extent you would limit that.
De son côté, Deliveroo nie que son algorithme récompense des livraisons rapides et encourage la conduite dangereuse.
Our algorithm also adds buffers because we also understand that there are going to be circumstances and things that come into play during a particular journey that, you know, the algorithm can't anticipate. So we do also add an additional buffer on top of that estimation.
Uber affirme que le changement de statut, payer un salaire minimum et offrir des horaires fixes briserait son modèle commercial. Actuellement, le salaire minimum en Australie est de 24 dollars de l'heure. Uber dit que ses partenaires gagnent en moyenne 21 dollars de l'heure. Cependant, un sénateur a cité trois rapports indépendants qui révèlent que le taux horaire moyen d'Uber se situe entre $8.5 et $12 de l'heure au cours des trois dernières années. L'enquête a entendu une recommandation concernant la sécurité des travailleurs et la protection du revenu qui pourrait voir l'instauration d'un fonds obligatoire où les sociétés de covoiturage devraient contribuer à l'indemnisation des travailleurs en cas de blessure, au droit au congé et à l'assurance accident des travailleurs. L'enquête se poursuit.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS en français, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau de la chanteuse Corinne qui s'appelle « Il fait chaud ». Nous, on se retrouve dès jeudi à 13h pour une nouvelle émission en direct. Et puis d'ici là, vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Pour cela, il faut télécharger notre application SBS Radio. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à notre chaîne SBS French sur toutes les plateformes de streaming audio. Passez une excellente après-midi et à très bientôt.
Un homme court sur le rivage, nageur sauveteur en pleine action. La foule se lève sur la plage. Fausse alerte circule.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.